Hein, de venir dans la Torah. Alors, donc cette semaine, c'est Parasha Vaïgash, ok? Et on va étudier un Vartora, vous avez le nom en bas, du Be'er Yosef. Be'er, c'est le puits de Yosef. Qui est ce Be'er Yosef? C'est un contemporain, bon, il est déjà décédé il y a une vingtaine, une trentaine d'années, il s'appelle Rabbi Yosef Tzvi Salant. Alors, le mot Salant vous résonne à vos oreilles parce qu'on connaît tous Rabbi Israël Salanter. D'accord? Rabbi Israël Salanter, c'est le fondateur de l'école du Moussar, du travail de l'éthique, le travail sur soi-même. D'accord? Ce qui est les deux grands courants contemporains, c'est la Chassidoute et le Moussar. La Chassidoute, c'est tout, la lignée du Baal Shem Tov, le Baal HaTanya, tous les Chassidim. Et de l'autre côté, vous avez le Moussar, c'est le travail de l'éthique personnelle. Ça a été développé par Rabbi Israël Salanter. Non, lui, c'est Rabbi Yosef Tzvi Salant, celui de maintenant. Pourquoi il s'appelle tous Salant, Salanter? Salant, c'est une ville en Lituanie. Il s'appelle Salantai maintenant. Et donc, comme avant, les gens n'avaient pas de nom, on les appelait le Grenobler, on les appelait le Vilner, on les appelait comme ça, du nom de leur ville. Et donc, lui, il s'appelait Yosef Tzvi Ben Yaakov, et on l'appelait Salanter, comme ses ancêtres. Alors, les Salanter, il y en a plusieurs qui sont des connus. Le premier fondateur de la dynastie, on va dire, des Salanter, mais ça ne veut rien dire, hein, c'est même pas un nom, c'est le nom de la ville. C'est Yosef Zandel Misalant. C'est le maître de Rabbi Israël Salanter, donc le maître du fondateur du Moussa. Et puis après, il y a eu Rav Bedin à Yerushalayim, qui s'appelle Rav Shmuel Salant. Et puis il y a ce Rav-là, qui est un contemporain. D'accord? Et donc il a écrit, non, il est décédé, il a écrit sur la paracha, il enterrait Yerushalayim. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est l'aspect binaire du nom de Yaakov. Yaakov, il s'appelle à la fois Yaakov et à la fois Israël, d'accord? Et on va voir que c'est un nom qui va et qui vient, c'est pour ça que l'Esprit de Torah, je l'appelais les tribulations d'un nom. Parce que ce nom de Yaakov et ce nom de Israël, il va et il vient. Et on va voir dans la paracha, il y a un verset très très intéressant qu'on va voir maintenant. Pour comprendre quelle est la différence entre le nom de Yaakov et le nom d'Israël. Alors, la première fois, bon, Yaakov, qui a appelé Yaakov? C'est Hachem, d'accord? Bon, Rachid dit c'est son père, il y en a qui disent c'est Hachem. Mais, à la différence de Esav, donc Yaakov et Esav, c'est les deux enfants de Yitzhak. Esav, c'est les gens qui l'ont appelé Esav, c'est-à-dire le terminé, il était fini parce qu'il est né déjà comme un être terminé. Et Yaakov, c'est marqué, il l'a appelé Yaakov. Alors, il l'a appelé, a priori, c'est son père. Mais Rachid dit, c'est Akadosh Baruch Hu lui-même. Et il a toujours gardé ce nom de Yaakov, jusque, longtemps, à peu près une soixantaine, 70 ans plus tard, donc il était déjà bien avancé dans son âge, quand il a eu la bagarre avec l'ange, d'accord, qui était l'ange de Esav. Une fois qu'il a vaincu l'ange de Esav, l'ange, il a dit, tu t'appelleras plus Yaakov, qui est un signe de roublardise, mais tu t'appelleras Israël. Et ce changement de nom, ça a été confirmé par Hachem, et voilà, c'est le premier verset, « Vayomerlo Elohim », et Hachem, il lui a dit, « Shimcha Yaakov, ton nom de Yaakov, lo ikare Shimcha od Yaakov. » Il ne s'appellera plus Yaakov. Pourquoi? Que Yaakov, c'est un signe de tromperie, « Ekev, le talon ». Il tenait le talon de son frère quand il sortait. Et donc, il y a toujours cette idée d'être là en train de vouloir prendre ce que l'autre a. Et il a pris la bénédiction, il lui a pris le droit d'aînesse, etc. Et il lui a dit, « Ki im Israël yeshemecha. » C'est Israël sera ton nom. « Vaikra et shemo Israël. » Et Hachem a appelé son nom Israël. Et on a exactement la même formule qu'on a à la naissance. « Vaikra et shemo Yaakov. » Il a appelé son nom Yaakov. Et donc, là-bas non plus, il n'y avait pas de sujet. Ici aussi, c'est la reprise de la même formule. Il a appelé son nom Israël. Donc, la même personne, entre guillemets, le même sujet qui avait appelé Yaakov à la naissance, c'était Hachem. Il a appelé maintenant son nom Israël. D'accord? Et en fait, ça pose une petite question. C'est que si effectivement, le nom de Yaakov, c'est un nom qui est associé à la tromperie, d'accord? Pourquoi Hachem, il l'a appelé comme ça? Et je veux dire, on aurait pu lui donner un nom plus élégant. D'accord? Si on dit que c'est les gens qui l'ont appelé Yaakov parce qu'il tenait le talon de son frère, je comprends. Si on dit que c'est son père, c'est déjà un peu plus difficile que le père, il l'appelait du nom du talon. Mais si c'est Hachem lui-même, et qu'Hachem, Kaviyachol, il sait le sens profond du mot Yaakov, qui va être pris par les gens, la tromperie, la ruserie, la fourberie, etc. C'est drôle que Hachem, il l'a appelé comme ça. En tout cas, c'est comme ça que ça s'est passé au départ, et au milieu de sa vie, on lui a changé son nom en Israël. D'accord? Mais de façon paradoxale, vous savez que les trois patriarches, Avraham, Yitzhak et Yaakov, ils ont eu des histoires avec le nom. Avraham, son père, il ne l'avait pas appelé Avraham, il l'avait appelé Avram, du nom du pays, le pays de Aram. Et c'est Hachem qui lui a dit, Hachem lui a changé de nom, il a appelé, on va t'appeler Avraham, le père de la multitude des nations. Et ce nom lui est resté définitivement. On n'a plus entendu parler du nom de son père, que lui avait donné son père. Yitzhak, lui, il a eu un nom à la naissance, qui lui a été aussi donné par Hachem, enfin qui lui a été donné par son père, mais à Kadosh Baruch Hu, il avait dit à Avraham, tu appelleras ton fils Yitzhak, et ce nom, il a été immuable. Yitzhak, c'est Yitzhak. On ne connaît même pas d'autres noms. Avraham, on sait, avant il s'appelait comme ça, après il s'appelait comme ça, avant il s'appelait Avraham, après il s'appelait Avraham. Yitzhak, c'est toujours appelé Yitzhak. Yaakov, on sait qu'au début il s'appelait Yaakov, après on lui a changé de nom, on l'a appelé Israël. Mais après, on a continué à l'appeler une fois Yaakov, une fois Israël, une fois Yaakov, une fois Israël. C'est un nom, en fait, qui va se balader dans le cours de l'histoire. Et c'est ça qui est étonnant, c'est ça qu'on va essayer d'expliquer maintenant. Pourquoi est-ce que le troisième patriarche Yaakov, de temps en temps on l'appelle Yaakov, on continue à l'appeler Yaakov, d'ailleurs, dans le langage courant, dans la Amida, on dit Avraham, Yitzhak, Yaakov, on ne dit pas Israël, d'accord? On dit l'Ebné Yaakov, quand ils sont arrivés en Égypte, c'est Yaakov est descendu en Égypte. Et des fois, on l'appelle Israël. Quand on l'appelle Yaakov et quand on l'appelle Israël, tout en sachant que Yaakov, il y a, entre guillemets, un caractère péjoratif dans ce Yaakov. D'accord? Et c'est d'ailleurs ce que lui a dit Esav. Esav, il a dit, ah ben, je comprends pourquoi on t'appelait Yaakov, parce que tu m'as embrouillé déjà deux fois. D'accord? Et on voit bien qu'Hachem, il lui a changé son nom. Donc, s'il lui a changé son nom, c'est qu'il y avait quelque chose à corriger dans le nom de Yaakov. Alors, dans le deuxième verset que je vous ai cité, oui, c'est la paracha de cette semaine. Dans la paracha de cette semaine, quand Yaakov, il retrouve son fils, on lui dit, mais tu sais, Yosef est vivant. Vous savez que pendant les 22 ans où Yosef a quitté son père, il était présumé mort, c'est marqué, Yaakov, il avait perdu la prophétie. Il a perdu l'inspiration. Quand on lui a dit que Yosef était vivant, regardez comment dit le verset, le deuxième, Vatechi ruach Yaakov aviem, c'est la troisième ligne, et il a revécu, il est rené le souffle de Yaakov leur père. Ça veut dire que Yaakov a retrouvé l'inspiration. Et le verset suivant, qu'est-ce qu'il dit? Vayomer Israël. Et puisque il s'est remis à vivre, et maintenant c'est Israël qui revit, donc c'est le même personnage. Dans un verset on l'appelle Yaakov, et dans l'autre verset on l'appelle Israël, et Israël a dit, Rav od Yosef ben Yichai, c'est beaucoup pour moi que mon fils Yosef était vivant. Elcha, je vais aller vers Enou et je vais le voir Beterem Amut avant de mourir. Donc vous voyez que, alors que dans le verset, le premier verset, on l'a appelé Yaakov, donc on voit que la Torah elle continue à l'appeler Yaakov pendant les 22 ans où Yosef avait disparu. Et dès qu'il apprend la survie de Yosef, sac, hop, le nom de Israël réapparaît. D'accord? Donc ça sous-entend qu'en réalité, il y a une sorte d'ambivalence du personnage du nom, qu'il y a une sorte, le Yaakov réapparaît en période de souffrance, et en période de plénitude, c'est Israël. Vous voyez? C'est drôle. Et on voit très bien, alors que le premier verset qu'on a cité, on a l'impression que c'est définitif, on a changé son nom. Hachem, il a dit, tu as vaincu l'ange, tu t'appelles Israël, point final. Et on voit que dans la suite de l'histoire, on continue à l'appeler Yaakov. Et là, pendant 22 ans, on va l'appeler Yaakov. Et ce qui va avec sa perte de l'inspiration divine. Okay? Et le jour où il retrouve son fils, hop, c'est Israël qui émerge. D'accord? Et maintenant, on voit un verset extraordinaire dans la fin de la paracha. Vous savez que quand Yosef il a envoyé chercher son père, la paracha nous raconte les retrouvailles entre Yosef et ses frères. Il leur dit, vous savez, allez me chercher papa. Il a envoyé des charrettes pour chercher son père, etc. Et avant de partir, de quitter Israël, puisqu'Israël, Yosef, il était en Égypte, il était roi d'Égypte. Il dit à son père et à ses frères, venez, maintenant il y a la famine partout, venez me rejoindre, je vais m'occuper de vous. Avant de partir, Yaakov, il est angoissé de quitter Israël pour aller en Égypte. Pourquoi? D'abord parce que c'est quitter Israël, c'est le pays qu'Hachem leur a donné, mais aussi surtout parce qu'il sait que partir en Égypte, c'est démarrer les 210 ans, enfin les 400 années normalement qui étaient prévues d'esclavage. Il sait que c'est quelque chose qu'ils ont sur le dos depuis Abraham et qu'ils devront payer ce tribut-là. Donc il hésite à partir. Et à ce moment-là, Hachem lui apparaît. Regardez bien ce verset étonnant. Le dernier verset. Donc 2, 4, 5e ligne des versets tout en haut. Vayomer Elohim le Israël. Et Hachem, il a dit à Israël. Bemarot à Laila, dans une vision de nuit, dans une prophétie nocturne. Vayomer, il lui a dit, Yaakov, Yaakov. Jacob, Jacob, Vayomer Ineni, il a dit, me voici. Alors, en soi-même, ce verset, et qu'est-ce qu'il lui dit? Vayomer, il lui dit, Anochi, Ael, Eloé, Avicha, je suis l'éternel, le Dieu de ton père, Altira, ne crains pas, mais Reda Mitzrayma, de descendre en Égypte, qu'il est Goy Gadol, Asim Hasham, c'est, je ferai de toi un grand peuple là-bas. D'accord? Donc, on voit qu'Hachem, il lui répond, il dit, n'aie pas peur de descendre en Égypte, ça va bien se passer, il y aura l'esclavage, mais je ferai de toi un grand peuple, au lieu d'être une petite famille, la famille de Yaakov, vous allez sortir les Bnei Israël. Et donc on voit qu'ici c'est la transformation entre Bnei Yaakov et Bnei Israël. En général, quand on parle du peuple juif, on ne parle jamais des Bnei Yaakov. Quand on parle de sa famille, avec ses 12 enfants, les petits-enfants, on dit les Bnei Yaakov. Mais dès que le peuple a émergé, c'est fini, c'est Bnei Israël. Or vous voyez ce passouk-là, il est tout à fait étonnant. Hachem, il s'adresse à qui?
À Yaakov.
Faux. Regardez ce qu'il y a marqué. Vayomer Elohim les Israël. Hachem s'est adressé à Israël. D'accord? Donc c'est vrai que c'est Yaakov, mais il s'est adressé à Monsieur Israël. Vayomer, il lui a dit, Yaakov, Yaakov. C'est bizarre. Tu t'adresses à Israël. Pourquoi tu l'appelles Jacob? Il est contradictoire ce verset. Vous voyez comment c'est bizarre?
Ineni, c'est quoi?
Me voici. Ça veut dire je suis prêt. Ça veut dire, regardez, Ineni, qui a dit Ineni?
Yaakov.
Enfin, oui, là c'est Yaakov, mais qui avait dit Ineni? Mais qui est le premier qui a dit Ineni? Ineni.
C'est Dieu?
Non. Le premier, c'est une belle chanson de Leonard Cohen.
Ah oui, c'est la dernière de son dernier album, il a dit Ineni.
Et c'est qui avait dit Ineni? C'est Abraham. Quand Hachem il a dit Abraham, Abraham, et il lui a parlé pour le sacrifice d'Yitzhak, il a dit Ineni. Ineni, c'est le terme usité quand la personne sait que on attend de lui une épreuve, on lui dit, Monsieur Grabli, j'ai un truc très important. Ineni, je suis prêt. Je suis bon.
I'm ready.
I am ready, voilà. I am ready. Quand on dit I am ready, ça veut dire je suis prêt à affronter. D'accord? Comme un militaire. Et donc, c'est ce qu'Hachem il a dit à Abraham. Quand Abraham, il savait qu'on l'attendait à une dernière épreuve ultime. Je ne sais pas s'il connaissait l'épreuve, mais en tout cas, il savait que ça allait chauffer. Et Hachem, il a dit, voyez, Abraham, Abraham. Et c'est-à-dire, pour ça, on répète le nom. C'est pas juste, il a dit Dieu Abraham. Il traque. Ça veut dire, réveille-toi. Il répond, hop, à vos ordres. Ineni, ça veut dire à vos ordres. Ici aussi, Hachem, il s'adresse à, alors, c'est un peu compliqué. Il s'adresse à Israël. Donc, s'adressant à Israël, ça veut dire, il s'adresse à la Madriga au niveau épanoui de Jacob. D'accord? Il y a un niveau restreint, le niveau de Yaakov, et le niveau d'Israël, c'est le niveau qui a récupéré l'esprit divin, la prophétie. Ça, on va dire, c'est le niveau épanoui. D'accord? Il y a le bouton et l'épanouissement, la rose. Et ben, Hachem, il s'adresse à lui. Ben, Yomer Hachem, et l'Israël. Hachem, il a dit à Israël. Et il lui dit quoi? Il dit, Yaakov, Yaakov, petit bonhomme. D'accord? Il lui répond, je suis prêt. Je sens que là, ça va chauffer. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Il lui dit, écoute, je vais t'expliquer. N'aie pas peur. Tu vas descendre à Gaza. Ouais. Tu vas descendre en Égypte. Et ça va être très dur. Mais ça sortira des bonnes choses. Tu seras un grand peuple. Et là-dessus, il lui dit, Ineni. D'accord? Donc on voit qu'en réalité, Yaakov, c'est pas un nom qui a été oublié. Yaakov fait référence à un état du patriarche, d'accord, particulier. Et Israël a un autre état, d'accord? Ce sont deux états de la même personne. Donc ça n'a rien à voir avec Abraham. Abraham, c'était le nom qu'il avait donné à son père, c'est un nom qui réfère à l'époque idolâtre. D'accord? J'avais dit stop, c'est fini. Et là, d'ailleurs, la Gemara dit, si quelqu'un il appelle Abraham, Abraham, il fait une interdiction. Yitzhak, lui, il est invariant. Il est né comme ça, le sacrifice d'Israël, d'ailleurs on ne voit pas des circonvolutions en avant. Yaakov, il fait des zigzags toute sa vie, des épreuves, il monte, il descend, il monte et descend. Et quand il est down, quand il est en bas par l'épreuve, c'est Yaakov. Dès que l'épreuve ça va mieux, c'est Israël. Et ici, c'est un verset extraordinaire. Hachem dit, écoute, je vais te donner une mission terrible. Ça va être très dur. Mon cher Israël, t'es prêt Yaakov? Donc Yaakov, on va dire, c'est le guerrier. C'est que celui qui va affronter la difficulté. Il dit, inéni, je suis prêt. Celui Hachem dit, je serai avec toi. Ok? Alors, on va voir ce qu'il dit. C'est le Ber Yosef qui fait remarquer ça. Enfin, indirectement. Vous êtes bon? Donc tout ça, c'était les versets. Vous voyez comment ces versets, si on ne fait pas attention, ils sont riches de sens. Ça veut dire, on passe sur la contradiction sans la voir. Dieu s'adresse à Israël, lui dit, Yaakov, Yaakov. Ça nous fait ni chaud ni froid. Alors que c'est un vrai problème. Alors, regardez. Vegam, les filles, machinit baerli. D'après ce qu'on avait expliqué plus haut, enfin, c'est dans le paragraphe précédent, des chinouï Hachem. Le changement de nom, mi Yaakov le Israël, en passant de Yaakov à Israël, ou Alchem anagato chez les Hatid. C'est par rapport à un comportement futur. D'accord? Que Israël, c'est l'épanouissement. Donc, c'est le futur de, d'accord? Israël est le futur de Yaakov. Chez Loït Tarer Meata, qu'il aura plus besoin maintenant, la lechet de marcher, be'akva avec roublardise, urmia et tromperie, ou bederech misteret et avec un chemin caché. Il dit, gamken, mes voix, je comprends également, ma shelone aikar Hachem Yaakov imekomo. Pourquoi on n'a pas déraciné ce nom de Yaakov de sa place? Il dit, il y a une question, c'est la question, c'est tout un long développement, moi je vous ai pris un petit morceau. Si effectivement le nom de Yaakov, il est lié à la tromperie, et c'est pour ça enfin, qu'il a été appelé comme ça, comment ça se fait qu'on n'a pas enlevé définitivement ce nom-là? Quelque part, c'est les juifs avec le nez crochu, quoi. On arrête cette image-là. Alors pourquoi on ne l'a pas enlevé? C'est vrai, c'est vrai. Mais quand même, le nom... Mais c'est vrai, mais le nom quand même, c'est vrai, mais la bracha elle est sur le personnage, elle n'est pas sur le nom. La bracha on la donne sur, on la pas donne sur, si le type échange de nom, la bracha elle ne va pas changer. Normalement elle est toujours associée, mais indépendamment de ce que tu dis qui est possiblement juste, c'est possible que ça soit lié au nom. Mais quand même, on aurait pu éviter de continuer à appeler ce nom-là, on sait que ce nom-là, la Torah elle-même, Esav il l'a dit, et Hachem il lui a dit on va te le changer, pourquoi on continue à le garder? Il dit des av chez Yaakov atzmo. Il dit bien que Yaakov lui-même, Aïta Meharshav, elle était à partir de maintenant, Anagato, son comportement, Begilouï, de façon dévoilée, Ushrara, et victorieuse. Ça veut dire que Israël, il y a le mot Roche, par opposition à Yaakov, il y a le mot Ekev, qui veut dire le talon. Donc Israël représente un comportement du juif haut, dévoilé, victorieux. D'accord? Donc, en vérité, c'est pour ça que c'est intéressant, parce que tout ce qu'on va dire maintenant sur l'ambivalence Yaakov et Israël va être transposé sur le peuple juif en lui-même. D'accord? Le passage de Yaakov à Israël montre, comme on a dit, un épanouissement, c'est-à-dire un aspect tête haute de Yaakov, tête haute du juif, tête haute du peuple juif. Vous comprenez? Yaakov, c'est celui qui trompe, c'est celui qui louvoie, qui a la tête un peu baissée. Oulam, cependant, c'est ce qu'il dit. Kevan, vous êtes bien? 2, 4, 6, 7e ligne. Kevan, puisque, c'est bon Manu? Oui. Michel, t'es bon? Kevan, puisque, Shema Seavot Siman Labanim, puisque les actions des pères sont un signe précurseur pour les enfants. Vous soulignez cette expression-là. Ma Seavot Siman Labanim. Les actions des pères sont un signe pour les enfants. Ça veut dire quoi? De tout ce qu'on voit dans la Torah à propos d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui eux sont appelés des pères, c'est en fait des signaux pour le futur du peuple juif. Comme ça dit le Rambam. Ou Klal Israël, or le peuple juif, Be'anagato, dans son comportement, Bizman Malchuto, au moment de son règne où le peuple juif est roi dans sa terre, ou Bismana Geoula, au moment de la délivrance future, les Hatid, ou Omnam, il est vraiment Bishrara, avec pouvoir, des Gilou Ipanim, et une face haute. C'est vrai que le nom Israël, qui représente l'état glorieux, fier du peuple juif, aval, mais Bismana Galout, à l'époque de l'exil, nous maintenant, Derech Hanagato, son comportement, Urak Be'echave, il est tout le temps caché, Be'derech Nisteret, et par une voie obscure. C'est-à-dire que le peuple juif, en exil, d'accord, il fait, il fait profil bas, voilà. Le peuple juif, dans son comportement dans l'exil, c'est profil bas. Il ne doit pas trop faire le malin. Et c'est comme ça que Hachem, il a voulu l'exil. Et donc, c'est ça, derrière Nisteret, un chemin caché, une voie cachée. On n'est pas obligé de se montrer et faire des grandes manifestations, et ni de notre pouvoir, ni de notre richesse, ni de dire voilà les juifs. Parce que là, ça ne fait qu'attiser l'antisémitisme. Ou Bibrinat Akva Urmia, c'est ce concept-là de ruse, pas de tromperie, mais dans le sens, pas tromper les autres, mais de tromper les autres sur notre véritable état. C'est-à-dire que tu dis, bon, ça va, j'ai pas des milliards, et je suis pas tellement intelligent, et ça va, normal, on rase les murs, d'accord? Ça veut dire, et c'est en réalité, c'est comme ça que la Gemara dit qu'on doit se comporter. Bien sûr, on doit pas être sous la carpette, mais on n'est pas obligé de se mettre en avant. Ça ne fait qu'attiser l'antisémitisme. Et donc, ou comment chez Amrou Chazal, comme ils ont dit les Chachamim, Israël, un juif, chez Nizdamenlo Akum Baderer, qui se présente à lui un goy dans le chemin. Veshalo, il lui demande, l'Echanoler, où il va? D'accord? Il pose des questions. Qu'est-ce que ça va les affaires? Où il va, c'est dans la route. Mais dans la route, dans sa globalité. Alors, qu'est-ce que c'est? Quoi tes projets, etc.? Yachivlo Aderer, il doit lui élargir la route. Il dit, dans cette direction. Il ne doit pas lui dire qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il va. D'accord? Le juif, il est profil bas. D'accord? Ni ce qu'il fait, ni ce qu'il gagne, ni ce qu'il va, ni ce que sa famille, etc. Pourquoi? Parce que c'est le comportement qu'Hachem a demandé à Yaakov qui préfigure le comportement qu'Hachem a demandé au peuple juif. Et ça nous explique qu'Hachem il s'adresse à Israël. Yaakov, notre ancêtre, il est en Israël. Il a retrouvé tous ses 12 fils. Il a retrouvé la Shrina. Il a trouvé l'aspiration. Hachem il s'adresse, hey, Israël! Oui! Yaakov, t'es prêt? Ça veut dire, je te demande de te remettre dans une petite boîte. Pourquoi? Parce qu'il va descendre en Égypte. Il va affronter l'exil. Il va affronter Paro, il va affronter les Goïm. Il va descendre en France, il va descendre en Algérie, il va descendre dans tous les pays. En Lituanie, il va descendre dans tous les pays que le peuple juif a affronté. Et là-bas, il s'appelle pas Israël. Il s'appelle Yaakov. D'accord? Ça veut dire que, on peut transposer ça sous différentes manières. Mais en réalité, c'est la manière dont le peuple juif a vécu. Alors bien sûr, on peut faire autrement. Et il y a la grande majorité, c'est les prix Nobel, c'est des juifs et des grandes fortunes, c'est ça. Mais ils sont pas obligés de montrer. On s'est pas obligé de se mettre en avant. On doit être profil bas, comme l'a été Yaakov. D'accord ? Ça vous paraît un peu bizarre parce que maintenant on est dans une génération, on dit non, on ne doit pas cacher qu'on est juif, etc. Mais il faut en faire le moins possible. D'accord ? Kemoshe asa Yaakov. Comme d'ailleurs il a fait Yaakov, les Savaracha, avec son frère. Et ça, il lui a dit, quand ils ont fait la paix, il a dit, tu sais quoi, je vais faire la route avec toi. On va faire des associations judéo-chrétiennes, on va faire la route ensemble jusqu'à ce qu'on arrive. Son frère lui a dit, non, tu sais quoi, c'est pas mes trucs à moi. Avance, moi je suis lent, je suis pas un rapide, donc je te rejoins. D'accord? Attends-moi là-bas, je te rejoins. C'est comme ça qu'il a fait Yaakov. Vehu bibrinat akeba urmia. C'est le concept de ruse. Alors, c'est vrai que, voilà, ça veut dire, c'est pas le problème, attention, qu'on s'entende bien, c'est pas de la tromperie, d'accord? C'est pas de la tromperie ou arnaquer l'autre, il n'est pas question, on n'a pas le droit d'arnaquer, mais c'est tromper l'autre sur son comportement, sur sa réalité. On n'est pas obligé de lui raconter tout ce qu'on fait et la manière dont on vit, etc. Ils ne comprennent pas. Et donc, le juif, il doit être un peu, se tenir en recul. On n'est pas obligé, bon... Après, c'est compliqué parce que c'est vrai que, par exemple, chaque chose est discutable. Mais c'est vrai, par exemple, la présidente du Sénat, là, Abram Pivet, d'accord ? C'est vrai que même des juifs dans des positions comme ça, ou après, il y en a qui font des bêtises. Mais c'est vrai qu'ils sont bons pour qu'on leur tire dessus, c'est tout. Alors quand ils se mettent dans des, quand ils se mettent dans des situations comme ça, un peu en avant, eh ben, en général, ça ne rate pas. On leur tire dessus, on les dégomme. D'accord ? Jalousie, différentes choses. Il y a plusieurs choses. C'est-à-dire que le peuple juif, il n'atteindra son apogée qu'avec l'époque messianique. D'accord ? Pour l'instant, on est en préparation. D'accord ? Alors, c'est pas qu'on fait rien. On fait, on crée, on est créatif, on développe l'économie, on fait tout. Mais on n'a pas besoin de le mettre en avant. Voilà, on n'a pas la tête haute. D'accord ? Alors, c'est un peu difficile à admettre. Bon, maintenant, on comprend, parce que maintenant, dans notre époque qu'on vit, on comprend qu'il faut un peu baisser la tête. Mais allez, il y a encore quelques années, oui, non, le juif, il doit être un peu la tête haute, il doit relever la tête, il y a Israël, il y a ci, il y a ça. Et on se rend compte que maintenant, c'est vrai qu'il y a Israël, on est très fiers, mais on doit se tenir tranquille. Vechem, regardez, Anagat, à l'avant-dernière ligne, Anagat Klal Israël, le comportement du Klal Israël, du peuple juif, Begalutam dans leur exil, Ibederech Esther, elle est dans une voie de cachet, de echabé et de pudeur. Ou comment chez Amrou, comme on a dit, regardez ça encore dans Ktuvot, bon et là je pense que ça va faire sauter plus d'un, chez Lo Ya'alou Bechoma, que les Juifs ne devront pas monter en Israël par la force, mais chez Lo Imredo Beumot, et qui ne devront pas se rebeller contre les nations. Ça veut dire, qu'on s'entende bien, alors ça c'est tout un sujet qui nécessite, on ne peut pas le traiter comme ça, mais la Gemara elle dit qu'on ne peut pas s'opposer pour l'instant aux nations, on doit avoir l'accord des nations. D'accord ? Bon, c'est ce qui s'est passé en 48. C'est-à-dire qu'on ne peut pas dire, oui, on va tout casser et on va rester en Israël, c'est chez nous, on démolit tout. Il fallait l'accord, et c'est vrai qu'on a eu avec l'accord des nations. Mais on ne peut pas, tant qu'il n'y a pas le Mashiach, on ne peut pas se révolter contre les nations du monde, parce que sinon ils vont tous se mettre sur notre tête. D'accord ? Et donc, on ne peut pas aller contre le courant. Vechem be Midrash Rabba, et comme ça il dit le Midrash, Penu lachem tsafonav. Akadosh Baruch Hu, il a dit, un verset, allez vers le nord. Et le mot tsafoun, c'est comme tsafoun dans le seder, c'est quand on cache la ficomène.
Exact.
Là, le nord, quand il dit allez vers le nord, ça veut dire cacher. Cacher ce que vous faites. Amar Rabbi Chia. Rabbi Chia lui a dit, Amar lehem, Hashem, il leur a dit au peuple juif, Imraitem oto, si vous voyez le non-juif, les nations, Shem Vakesh Nidgarot Bachem, qui veulent s'opposer à vous, Al Tamnu Kenegdo. Ne vous levez pas contre eux, ne faites pas la guerre. Elat Pinu Atzmechem, cachez-vous, At Shiavor Olamo, jusqu'à ce que passe le temps qui est imparti, le temps de gloire qui est imparti à ces nations qui s'opposent à vous. Et donc, Vekevan, et puisque Shadaïn Itzrechu Banav, puisqu'ils auront besoin, les enfants de Yaakov, Bizman Agalut, à l'époque de l'exil, les Derer Vanagazu, de ce comportement, ça veut dire Hachem, il connaît le futur. Et Hachem, il sait que c'est un comportement qui va être nécessaire tout au long de notre exil, que ce soit en Espagne, en Europe, en Afrique du Nord. C'est une ligne de conduite. On ne se met pas en avant, on ne devient pas ministre, on ne devient pas... Enfin, on essaye, si on le fait, on le fait discrètement, mais pas en avant sa judaïcité tout le temps. La reine, c'est pour cette raison, il dit le Ber Yosef, « L'on est carmi meno Hachem Yaakov ». On n'a pas enlevé, on n'a pas déraciné son nom de Yaakov chez Moré, qui nous enseigne à l'anagazou ce comportement. Vous comprenez ? Donc c'est effectivement que c'est un couteau suisse. Yaakov, c'est le nom qu'on dégaine quand on est en exil, c'est ça qui veut dire le Ber Yosef. Quand tu es en exil, tu ne t'appelles pas Israël, on n'est pas oui, Israël, Israël. Même maintenant, on dit bon, on est des juifs français, c'est bon, on n'est pas des Israéliens, sinon après c'est la révolution. Et partout c'est comme ça. D'accord ? Donc c'est pour cette raison, Oulam, mais il dit Oulam, cependant, Kevan, chez Yaakov, Beatzmo, Loïtstarer, puisque Yaakov, à partir de maintenant, il n'aura plus besoin les Dererzou, de ce chemin-là, Vechen Banav et ses enfants, Bizman Malchutam, à l'époque de la royauté, ou Bizman Ageoula, et à l'époque de la délivrance chez Latid future, dernière ligne, la reine c'est pour cela, Ikar Hashem ou Israël, l'essentiel du nom c'est Israël, Shoulachan Srara, qui a un langage de victoire. Ça veut dire que Hachem, il a dit, tu sais, c'est fini. Ton nom, c'est Israël. C'est celui-là qui va te représenter. Mais sache que le nom de Yaakov ne disparaît pas. Mais maintenant, c'est fini. Tu as cette capacité en toi de devenir roche. Parce que ça préfigure l'époque messianique. Et quand Yaakov, il était en Israël, il s'appelait Israël. D'accord ? Sauf qu'il y a eu des périodes, on voit que ça, quand il a perdu son fils, pendant 22 ans, c'était fini Israël. Il s'appelait Yaakov. D'accord ? Et dès que Yosef est revenu, Israël est réapparu. Et donc maintenant, il se prépare à partir en Égypte. Et regardez, on va relire ensemble ce verset, qui trouve là toute sa beauté. Regardez, le dernier verset sans classe, en haut dans les versets 2, 4, 5e ligne. Bah, Yomer Elohim le Israël. Et Elohim a dit Israël. Quand on dit Elohim, c'est la Midat Adin. Vous voyez ? C'est pas Hachem, c'est pas la Midat Rachamim, c'est la tribu de rigueur. Ça veut dire que si c'est Elohim qui s'adresse à Israël, ça veut dire que c'est le commandant en chef qui s'adresse aux soldats. C'est pas le copain. Elohim, c'est le Din. Et il s'adresse à Israël. Et Israël, il est gentil, il est content, il a retrouvé tous ses enfants, il est en pleine forme. Mais Marot à Laïla, il s'adresse à lui la nuit. Ça veut dire que ça préfigure la nuit, l'exil, la difficulté. Vous voyez, tous les termes de ce verset sont importants. La Midat Adin s'adresse à Israël, qui est tout guilleré. Mais il s'adresse à lui la nuit. Il aurait pu s'adresser à lui le jour. Il s'adresse la nuit. Il a dit, il y a la nuit qui va commencer. Ben, Yomer, il lui a dit, Yaakov, Yaakov, je fais référence à tes capacités de résilience, à tes capacités de repli sur soi-même.
Je suis prêt.
Vayomer Inani, il a dit, patron, je ne sais pas ce que tu me proposes, mais je suis prêt. Je suis prêt à me recroqueviller sur moi-même. Vayomer, il lui a dit, écoute, Anochi Ael Eloé Avicha. Je suis elle, et elle, c'est Midat Rahamim, c'est Midat Chesed. C'est pas comme Elohim, d'accord? Elohim, c'est au pluriel, c'est Midat Din, tandis que elle, c'est Midat Rahamim. Il lui dit, tu sais, je suis le Dieu de bonté. Eloé Avicha, qui est aussi le Dieu de ton père. Altira, et ne crains pas, n'aie pas peur, mais Reda Mitzrayma, de descendre en Égypte, où il va falloir souffrir, où il va falloir te cacher, où il va falloir ne pas montrer ta judéité, dans tous les exils qui vont se poursuivre. Qu'il est Goy Gadol Asim Hacham, je ferai de toi un grand peuple là-bas. Ça veut dire que le passage par l'exil, d'accord, c'est la phase nécessaire pour faire grandir le peuple juif. Effectivement, toutes les péripéties que le clan Israël a traversé pendant tout son exil, c'est ça qui ont forgé la grandeur du peuple juif. Et donc, pour l'instant, on est encore Yaakov. D'accord ? Alors attention, ça ne veut pas dire qu'il y a l'État d'Israël, ce que vous voulez, on s'appelle la ministre. Tout ça, c'est vrai. Mais c'est un concept. Ça veut dire que notre comportement, d'accord ? On ne parle pas du nom, d'accord ? Bien sûr qu'on peut, si tu as envie de t'appeler Israël, t'appelles Israël. Mais dans le comportement, on est dans ce concept, un comportement qui est encore sous cloche. On s'appelle Yaakov. On a le comportement de Yaakov, le comportement de l'exil. Et c'est comme ça qu'on vit. Le maître, c'est comme ça qu'on vit. Alors avec plus ou moins, il y a des fois plus, des fois moins. Mais disons, globalement, c'est comme ça qu'on est. Et on ne peut dire, on s'en fiche de tout le monde. On fait ce qu'on veut en Israël. On tout ce qu'on peut imaginer. On fait ce qu'on veut. Non, c'est pas encore. C'est pas encore. On est, même si on est, et sous-entendu, même si on est en Eretz Israël, comme il l'a rapporté, on a quand même un comportement où on est dépendant du reste du monde. Quand viendra le Mashiach, on envoie tout le monde bouler. Mais c'est normal, tout le monde comprendra que c'est Hachem qui dirige le monde, et à ce moment-là, on sera Israël. Et Yaakov sera de côté. Yaakov restera parce que ça nous rappellera ce qui a amené. Yaakov, c'est le bouton qui amène à la rose. Yaakov existe, et ça reste, puisqu'il restera définitivement. C'est un nom qui lui a été donné par Hachem. C'est une capacité, on va dire, c'est la capacité de discrétion, c'est la capacité de résilience dans la galoute. Vous voyez ? Bon, voilà.
Quand oui. Dépendant.
Oui.
C'est dépendant ou c'est
dépendant de l'accord, dépendant de la vie, on est toujours dépendant. Comme maintenant.
La cohabitation.
Plus que la cohabitation. Plus que la cohabitation. Des fois, pour vivre notre judaïsme, on est dépendant. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Pour avoir Shabbat, tu es obligé de demander. Pour avoir.
On ne peut jamais faire ce qu'on veut.
Oui, mais même par rapport au goïm. Je veux dire, même maintenant, on vit dans la galoute, eh bien, on a des demandes à faire, on peut pas circuler. Bien sûr qu'on peut sortir dans la rue, faire les malamés. Il y a un moment où ça s'arrête. Tu peux le faire dans des quartiers, mais tu ne peux pas faire ce que tu veux. Tu ne peux pas afficher partout ta judéité, encore plus maintenant, mais de tout temps ça a été comme ça. Même quand les, de toute manière, même quand les juifs ils étaient très puissants, eh ben, ils étaient calmes. Ils n'ont pas besoin d'être exubérants dans leur judéité vis-à-vis des goïms. Et ça, c'est la madriga de Yaakov. Et même si ça nous gêne, d'accord, mais c'est une réalité qui a été fondée par notre patriarche Yaakov sous les directives d'Hachem. Hachem lui-même, il a dit, écoute, voilà, je veux bien, d'accord, que tu t'exprimes ta judéité, Israël, 12 enfants, et c'est là. Parce que Yaakov, il était très riche, il avait 12 enfants, 70, ils étaient 70, ils étaient une tribu très puissante. Mais Hachem, il a dit, tu sais quoi, mets-moi ça sous cloche, t'as pas besoin de t'étaler devant tout le monde. Voilà, Guy Chavez, mes amis. Chavez.